Vous écoutez
RMC.
On continue jusqu'à minuit, il est 22h48, évidemment, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, en direct sur RMC tous les soirs, avec Coach Corbis ce soir. Rebonsoir Roland.
Re-salut.
Et avec Lionel Charbonnier, toujours là. Rebonsoir Lionel.
Salut à tous.
On va parler Ligue 1 ce soir, la large victoire de Paris à Clermont 5-0 et la victoire de Monaco à Strasbourg 2-1. Il y a toujours un match portugais en cours entre Porto et le Maritimo Funchal, 3-0 en faveur de Porto. On est en début de deuxième mi-temps. Supporter clermontois, supporter parisien, vous attend au 32-16. Il y a pas mal de choses à analyser ce soir. On vous peut également nous écrire sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou bien sur Direct Studio sur notre appli RMC. C'est très simple, vous appuyez sur la petite radio et puis vous vous laissez guider, c'est totalement gratuit, vous pouvez envoyer vos messages, n'hésitez pas à le faire. Démonstration parisienne, Lionel, Roland qui veut démarrer, on a l'impression que la saison démarre là, oui. De façon magnifique en fait pour Paris.
D'accord, démonstration parisienne, ça, aucun problème. Et vraiment un adversaire rêvé pour pouvoir faire cette démonstration.
Tu veux dire que Clermont, la stratégie de Clermont est la stratégie d'une équipe qui veut se faire déchirer par le PSG en fait.
Mais la stratégie de
et
Clermont,
ça a été le cas.
J'ai quand même la possibilité de parler en tant qu'ex-entraîneur. Donc quand par exemple tu rencontres le Paris Saint-Germain, rien que tu regardes la composition d'équipe de Paris Saint-Germain, c'est pas que tu dois avoir peur. Puisqu'on est dans le sport, mais tu dois être quand même inquiet. Ton souci, c'est de ne pas être ridicule. Et là, je pense, mais des erreurs, on en fait tous, que l'objectif de Clermont, c'est, écoutez, Paris Saint-Germain ou pas Paris Saint-Germain, nous, on a notre jeu, on a notre organisation, on a nos habitudes, et on va jouer. La solution, ça sera le jeu. Eh bien, continue avec ta solution, le jeu. J'ai entendu ça aussi du côté de Jean-Marc Furlan, qui a d'énormes qualités. Mais continuez à avoir ça comme idée, et tu vas voir qu'il n'y aura pas de problème pour être dans les quatre derniers.
Après, c'est un truc un peu philosophique, quoi. On peut considérer que ça part d'un bon sentiment, quand même.
Ouais, oui, mais le sentiment, tu t'en fous.
Bon sentiment, mais il faut quand même aussi te mettre un petit peu à la place d'un joueur. Il y a une solidité qui te donne une certaine confiance. Je le dis, je le répète. C'est vrai que je suis un petit peu moqueur par moment, parce que j'exagère un peu, mais du côté de l'arrière droit de Clermont, je te dis, il y avait l'impression qu'il y avait un joueur de moins, donc faut quand même pas déconner. Donc,
ouais, je suis d'accord avec toi, Roland. Je pense aussi, surtout quand t'as un effectif qui est complètement remodelé pour les Clermontois, et notamment toute la ligne d'arrière pratiquement, parce qu'il en reste plus qu'un. Tu vois les côtés, ils ont été mis en difficulté, tout ça. Tu demandes de la solidarité défensive, et puis tu joues les coups à fond. Ils l'ont fait un peu en première mi-temps. Ils étaient, mais ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Ils étaient bien en bloc, et puis ils jouaient les coups, les contre-attaques et tout. J'ai dit tiens, intéressant ce qu'ils sont en train de faire, et notamment lorsqu'il passait par les côtés du PSG. Et puis tout d'un coup, tout ça, ça s'est. Ils ont pris confiance parce qu'ils étaient bien comme ça. Ils ont pris confiance et ils ont tendu le bâton comme ça pour se faire battre. Ils sont même pris des contres parce que les buts du PSG, notamment en première mi-temps, c'est deux contres. Et notamment dans le dos de la défense, parce que cette défense a été, ils jouaient tellement haut qu'ils ont laissé des espaces. Alors quand tu laisses des espaces à Sarabia, à Messi, à Neymar et aux côtés à Nuno Mendes et à Kimi, tu peux te prendre qu'un bouillon. Je pense que cette année, et surtout contre ce PSG, c'était fallait vraiment pas faire ça. T'as besoin de solidarité, t'as besoin de construire un groupe. Et ben un groupe, tu le construis quand tu prends pas des fessées comme ça.
Et quand tu rencontres une équipe comme Clermont, qui logiquement, sans être peureux, mais être lucide de se dire tiens, il y a une saison avec quatre derniers. On fait partie des 8 ou 9 équipes qui vont se battre pour ne pas être dans ces 4 derniers. Mais tu es obligé de prendre en considération l'importance d'un goal à virage. Ouais. On peut pas faire n'importe quoi.
Il y a d'autres choses en plus qui me fait peur pour Clermont. Alors mis à part bon, c'est le premier match, on va pas non plus.
Oui, d'accord.
Voilà. Puis c'est le PSG en face. C'est un PSG qui est très en forme. C'est un PSG qui, c'est la première fois que je vois depuis longtemps un PSG très en forme comme ça, en jambes, clairvoyant, des mecs. Tu vois qui sont vraiment, qui sont bien parce que ils ont une vivacité d'esprit. Ils ont cette vivacité physique, mais c'est aussi cette vivacité d'esprit. Donc c'est difficile de jouer contre ce PSG là. Donc je veux pas les enterrer. Mais en plus, tu vas avoir un Clermont qui va jouer peut-être plus de la moitié de son championnat avec une tribune en moins en réparation. Roland peut en témoigner. Quand t'es dans un stade comme ça, tu vas jouer le maintien et que ton stade, eh ben, tu vas le perdre à moitié. Tu vas avoir la moitié de tes spectateurs. Tu vas avoir, ça va être moribond à la maison et tout ça. Et tu connais l'importance des matchs à la maison. Ça risque d'être très compliqué pour Clermont.
Moi, j'avais prévu qu'on parle d'abord de Paris, mais enfin là, puisque vous êtes parti sur Clermont.
Moi, c'était mon troisième point.
Et avant d'accueillir Bidel dans quelques instants, là, qui est supporter parisien, Roland, t'aurais mis. Je te bombarde, coach de Clermont, t'aurais fait quoi ?
Ben disons que en aucun cas je mets deux attaquants dans la zone où il y a trois arrières centraux. L'organisation de Paris Saint-Germain et les trois arrières centraux, tout le monde entier est au courant. Je vais pas mettre une organisation qui rêvait pour le Paris Saint-Germain. Déjà qu'ils sont forts individuellement, je leur mets deux attaquants dans leurs trois arrières centraux. C'est exactement ce qu'ils veulent. Je ne mets pas cinq au milieu parce que ça pourrait des fois gêner les couloirs qu'ils ont deux monstres rapides dans les couloirs, c'est-à-dire je laisse les couloirs, je perds un attaquant en le mettant dans les trois arrières centraux et dans les un contre un qui me reste à chaque zone j'ai un joueur en face qui est supérieur à un des miens. Eh ben je suis désolé, j'aurais joué en 4-5-1 mais j'en aurais peut-être pris 6 hein, parce que le football reste le football, mais peut-être aussi que on aurait été moins ridicule.
Bon, Lionel, je te demande aussi quelle aurait été ta stratégie.
Bah écoute, moi j'aurais fait plutôt un 5-4-1 personnellement, et puis essayer de mettre du surnombre là où t'es en difficulté.
Ah là, c'est double bus, la tactique Charbonnier.
Non, ça, 5-4-1, ça veut pas dire que tu joues pas.
Pourquoi 4-5-1? Parce que les extérieurs des 5 au milieu, ben ils auraient eu la responsabilité du couloir. Donc du couloir, finalement, ouais. en se replaçant, ça aurait été un 6-3.
Ouais. Mais voilà, non ça veut c'est pas faut arrêter de dire que lorsque tu joues en 5-4-1, tu joues la défense
6-3-1.
Ouais, ça existe aussi hein. C'est bah il y en a qu'on fait pire que ça, c'était quel match.
On avait eu un règlement qui te l'interdit.
Bien sûr. Mais non tu peux jouer en 5-4-1 avec en demandant surtout aux deux lignes de la ligne de 5 et la ligne de 4 d'être très proches et d'avoir de la complémentarité parce que tu vas voir hein, j'en mets ma main coupée, d'ici 3-4 matchs, Clermont va jouer à 3 défenseurs axiaux. J'en suis persuadé, ça va changer. On en reparlera.
Sûr. Je suis pas sûr, tu sais.
Bah, je sais pas, on en reparlera. Ils l'ont fait l'année dernière.
Qui est aussi talentueux, parce que c'est un des bons coachs français méconnus pour moi par rapport à ce qu'il fait, mais un peu têtu aussi.
Ouais, mais je sais pas. L'année dernière, ils l'ont fait.
C'est obligatoirement un défaut. Hein.
Mais ça veut pas dire que c'est mettre le bus. Hein. Tu peux. T'as des équipes qui jouent en 5-4-1, qui jouent très haut, et il y a de la complémentarité. Tu peux défendre très haut en 5-4-1. Il y a aucun souci. Et dans les projections, si t'arrives à attraper les ballons très haut dans les projections, ça te fait beaucoup moins de courses aussi pour tes attaquants. Donc et surtout, ce qui est très important, c'est de raccourcir l'espace entre les lignes. Là aujourd'hui, il y avait beaucoup trop d'espace entre les lignes de Clermont. Et on a vu beaucoup de joueurs du PSG trouver, notamment en deuxième mi-temps, Messi, on l'a trouvé je ne sais pas combien de fois, entre les lignes, dans le dos de l'adversaire. Quand tu as demandé, quand tu as posé la question, Gilbert, qu'est-ce que vous appelez casser les lignes, et bah, c'était à ce moment-là, je pense, que tu as dit ça, parce que Messi et même Sarabia et voire Neymar étaient trouvés dans le dos de la ligne de 4, voire de 5 des.
J'ai surtout dit ça à nos jeunes commentateurs.
Ouais, mais c'était à ce moment-là.
Parce qu'en fait, ils répètent ça de façon mécanique. Par rapport à ce qu'on entend partout. En fait, si tu veux, il y a mimétisme dans le vocabulaire qui parfois est étonnant. Bon, enfin bon. Bilal est là, il est supporter parisien. Bilal, salut.
Salut Gilbert.
Salut
bonsoir,
Bilal.
Coach. Salut Lionel.
Salut Bilal.
Vivement qu'il revienne Kylian. Hein.
c'est sûr qu'il nous manque le Kylian quand même.
Oui.
Moi, messieurs, je vous appelais ce soir parce que, en tant que supporter parisien, évidemment, je passe une bonne soirée puisque le PSG gagne 5-0. qu'on a l'impression que l'équipe a l'air d'être quand même plutôt en jambes. En revanche, je vais quand même temporiser un peu et dire que attention, ça fait deux matchs, on a joué Nantes et on a joué Clermont, sans dénigrer ces deux équipes-là, mais voilà, comme disait le coach tout à l'heure, on est d'accord que c'est un Clermont en reconstruction qui a pas l'air en grande forme et qui dans son organisation a clairement pas mis les choses pour ne pas prendre une valise. Et du coup, ils ont pris une valise. Mais voilà, moi je veux qu'on temporise, on attend un peu, et puis le jour où on fera un match comme ça contre déjà une belle équipe de Ligue 1, on pourra déjà commencer à être un tout petit peu plus enjoué.
Voilà. T'as raison. Puis, mais il y a quand même des belles choses, Bilal. Il y a de quoi.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Il y a des belles choses. Tu vois qu'il y a des relations entre les joueurs.
Exactement.
Il y a des. On a vu des très belles passes.
Ouais, puis tu vois qu'il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance.
Oui. Non, mais moi je suis amateur de passes en plus.
Ça se voit facilement.
Et puis voilà. Donc après, comme disait coach tout à l'heure, c'est clair que on a envie de voir Kylian Mbappé au milieu de ça. Mais voilà, moi je pense qu'il faut qu'on reste prudent.
Et surtout,
j'ai regardé le match à la télé. Oh, les superlatifs, il faut arrêter quoi. Je crois que les exceptionnels, extraordinaires, magnifiques et superbes, on a dû les entendre. À un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une feuille, je vais mettre des bâtons pour compter le nombre de fois, mais c'est exagéré. Belle soirée.
Ah oui, mais ça à la télé, mon petit Bilal, il faut vendre le produit, hein.
Ouais, non, mais d'accord, faut vendre le produit, mais.
Et tu vois. Ah.
Moi, j'ai bien aimé les deux dans le milieu, au-delà de la prestation de Messi, Neymar, tout ça. Tout est relatif, t'as raison, Bilal, je suis d'accord avec toi, faut rester tranquille. Mais, Vitinha, avec Verratti, j'ai adoré, et notamment le placement de Vitinha, sa clairvoyance, là, ça fait deux matchs vraiment où je suis vraiment fan de Vitinha. De ce qu'il fait.
Non, mais techniquement, les deux sont très très forts.
Même intellectuellement, il a une intelligence de jeu incroyable et techniquement, il n'est pas gêné pour mettre son intelligence à profit. Donc,
tu vois bien que la relation entre les deux, elle a l'air de plutôt bien se faire. Et surtout, ce que j'aime bien avec Vitinha, c'est que il va vers l'avant. Je ne sais pas s'il fait des passes vers l'arrière. Enfin, latéral peut-être, des fois, mais vers l'arrière, je ne pense pas. Et ça manquait au PSG parce qu'on avait beaucoup de milieux de terrain à Paris qui avaient tendance à jouer vers l'arrière et d'avoir des milieux qui regardent devant eux et qui jouent vers l'avant, ça manquait aussi.
Mais je pense que c'est quelque chose, c'est pas seulement pour Vitinha. J'ai regardé aujourd'hui et notamment en première mi-temps, parce que pour moi là, c'est la première mi-temps qu'il faut prendre en compte. Toutes les premières intentions c'était vers l'avant, quelle que soit la réception. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est dès la perte de balle où qu'elle soit faite, cette perte de balle, c'était 20 secondes minimum pour récupérer le ballon avec un effectif complet concerné pour cette récupération de balle. C'est aussi un gros changement, à voir si ça continue.
Le problème en fait à ce stade là le stade de la saison, on est début août là, le PSG pour l'instant a gagné tous ses matchs, bon, sauf que quand tu regardes t'as trois équipes japonaises qui peut-être joueraient même pas en D2 chez nous, t'as Quevilly, t'as Nantes, bon, trophée des champions, c'était quand même, on va dire.
L'année dernière, tu perds le trophée des champions déjà.
Certes. Et là, t'as Clermont. Et en fait, tu as la même histoire avec le PSG. C'est qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre. Et alors, il y a un match contre Monaco, fin août. Et puis, qu'est-ce qu'on va attendre? Peut-être même jusqu'en février ou mars. Ça va être, c'est toujours pas, en fait, tous les ans, c'est la même histoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais le PSG doit construire, Gilbert. C'est sur ces matchs-là aussi qu'ils doivent, améliorer leurs automatismes, les relations individuelles et tout ça. Et puis, et surtout, c'est là où il faut que le PSG soit fort, et j'insiste là-dessus parce que ça a été vraiment, j'en avais parlé avec Laurent Blanc à l'époque, où la première année de Lolo, le PSG ne finissait pas ses matchs, ils se mettaient hors de portée de leurs adversaires très vite et après ils descendaient dans le rythme. Là, ça a été un petit peu le cas en deuxième mi-temps, le PSG a géré un petit peu trop, il y avait déjà les 4-0, les 3-0, mais là, il faut, moi je pense, si le PSG, même dans ses petits matchs, que le PSG mette le rythme, garde le rythme beaucoup plus longtemps. Ça fera avancer le PSG pour les prochains matchs où on les attend, les grosses échéances.
Non, mais le match contre Monaco à la fin août, honnêtement, pour moi, ça va déjà être un bon curseur. Hein. Je pense qu'on va déjà Monaco pouvoir jambes, hein. se dire, Monaco, ils sont en jambes, mais ils ont gardé leur match. Bon, je pense qu'ils ont encore besoin de se régler un peu, honnêtement, mais c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de jeunes et tout, mais je trouve que ça joue quand même
et
bien.
Et après, il y a un Lyon-PSG avant la Ligue des Champions, là, mi-septembre.
Si je vous rappelle et que je vous dis que je suis content des soirées du PSG, le soir de Monaco, le soir de Lyon, et puis un mardi ou un mercredi d'ici le mois de février, je pense qu'on est pas mal.
Oui, en février, oui, je suis d'accord.
Ouais, en février, ouais.
Roland.
Non, ce que je voulais dire, c'est que bon, une de mes phrases, je dirais pas préférée, mais habituelle, c'est comparons ce qui est comparable. Ce qui s'est passé la saison dernière dans le trophée des champions. Mais on avait quand même un Paris Saint-Germain qui était totalement différent de celui-là.
Oui.
L'intersaison, c'était pas la même. Les joueurs là, ils sont partis tranquillement se reposer. Ils ont repris un entraînement.
Ils ont tous repris en même temps.
On sortait de l'Euro il y a un an.
Mais ma foi, on sortait de l'Euro avec une bosse. Donc si tu reprends la composition d'équipe qui a rencontré Lille, ça a enlevé les mérites à Lille. Ça n'a rien à voir avec la composition d'équipe qu'on a ce soir contre Nantes, qu'on a eu contre Nantes ou qu'on a ce soir. Là, on sent déjà que Christophe a eu le temps de bien travailler sur pas mal de choses, notamment sur les coups de pied arrêtés. Mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Excusez-moi. Et là, malgré l'absence d'Mbappé, il y a un Paris Saint-Germain. Il y a trois semaines de ça, on ne sait pas si on garde Neymar. Là, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Et il a l'air d'être impliqué. On voit quand même l'amitié qu'il y a entre les joueurs. Il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Ça, je pense que Galtier n'est pas étranger à ça non plus. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention. Je me dis, tiens, si j'avais eu le plaisir d'être... il y a quelques années, et de rencontrer cette équipe-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Mais tu sais, les équipes qu'on a rencontrées du côté de Montpellier avec Montpellier, contre le Paris Saint-Germain, c'était pas mal, hein, avec le Zlatan et compagnie, c'était pas mal du tout. Hein.
Bilal, merci !
Merci à vous, les gars.
Et on n'était pas tout le temps ridicule.
Salut, Bilal.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et puis à bientôt.
Tiens, Sébastien est là au 32-16, autre supporter parisien. Salut Sébastien.
Salut l'équipe. Bravo.
Salut Sébastien.
Bravo. Tu nous, on n'a pas fait grand chose. Hein. Et
Non. Franchement, on a vu un match. Donc moi, j'habite Clermont.
Et tu étais supporter parisien à Clermont, toi ?
Ah, bah évidemment.
T'étais au match ?
J'y étais, ouais, évidemment. J'ai vu, pour moi, l'un des buts de l'année. Ça va faire le tour du monde, comme c'est Messi qui l'a mis. Et moi, je voulais surtout dire, féliciter le public clermontois.
Ouais.
Parce que c'est quand même, ça m'a rappelé un peu le but de Ronaldo quand il marque contre la Juve.
À la Juve.
Où tout le stade l'avait applaudi et tout le monde a crié Messi, Messi, Messi. Alors c'était après, on peut pas parler du match parce que c'est deux mondes complètement différents. C'est quand tu vois ça du bord du terrain, ça a rien à voir. Déjà l'année dernière, ils avaient mis une branlée. Ils ont remis la même hein, et sans Mbappé. Hein, donc. C'est costaud, ça joue bien, ça joue vite, ça joue simple. Et pour moi, c'est vraiment la différence. Neymar, moi je suis désolé, Neymar, si vous regardez bien, jamais il a fait plus de 3 touches de balle dans le match.
Exactement. Jamais.
Ah, tu veux dire, il y a un nouveau Neymar, quoi, c'est ça ?
Peut-être jusqu'à la Coupe du Monde. Attention, parce qu'après, je garantis rien. Mais on sent que les gars se font plaisir, ils jouent ensemble, ça joue simple. Voilà, Paredes, il rentre. Il te fait deux ouvertures magiques. Non, c'est... Bon, Galtier, on lui
parle deux matchs,
rien,
ça, c'est... Il a trois buts, trois passes décisives pour Neymar sur les deux matchs officiels.
Non, moi, je pense que ça a enlevé les mérites à Christophe. Il faut qu'on s'habitue quand même à donner des responsabilités à ceux qui le méritent. Christophe, en numéro un, ok. Mais Campos, la construction de ce groupe, Quand je dis la construction, c'est autant avec les joueurs qui arrivent, la complémentarité qu'il y a, et les joueurs qui partent. Donc, tu avais l'impression que le Paris Saint-Germain, c'était impossible à entraîner. Là, aujourd'hui, tu as un Christophe Galtier tranquille, il y a Campos à côté, les choses, ils les font ensemble, les choix, eh ben ils se font ensemble, mais certains choix, et notamment celui de Sanchez, eh ben on en reparlera prochainement. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Pour le moment, ben je vois que de bonnes idées.
Et c'est pas uniquement
la responsabilité de Christophe qui lui-même te dit oula, là certains problèmes je ne m'en occupe même pas. Et donc c'est pour ça que on va pas parler de 3, de 4, de 5, de 6. Allez, si on en sélectionne 2, on laisse le président et l'émir de côté. Pour moi, c'est Galtier, Campos.
Les changements tactiques de Galtier sont bons quand même. Parce que Moukielé, qui est censé faire doublette à Hakimi, qui rentre en poste axe droit pour remplacer Ramos, bon, qui s'est baladé encore comme d'habitude, entre guillemets, en marchant.
Bah, comme d'habitude, ouais, non. L'année dernière, il ne se baladait pas, il ne jouait
ouais,
pas.
Mais après, on verra l'utilisation de. L'utilisation de Ramos, après, bon, on en reparlera, j'en ai déjà parlé. Chacun sa vision des choses pour une organisation à trois arrières centraux. Est-ce que la meilleure solution, c'est qu'il joue à droite et Marquinhos dans l'axe? Moi, je verrais plutôt le contraire pour déjà économiser Ramos qui, sur les deux dernières années, a démontré, alors que lui, normalement, c'est Tarzan, et c'est un Tarzan qui était titulaire à l'infirmerie.
Bah, disons donc, que,
surtout sur les relances. J'en parlais avec mon pote Fabrice, là, et en fait, on disait ça. Normalement, Ramos devrait être dans l'axe parce qu'il a des relances qui sont exceptionnelles. Et c'est lui qui devrait orienter le jeu, normalement. Il ne devrait pas être à droite, je suis entièrement d'accord.
Après, Ramos, le fait de mettre Marquinhos, moi, je pensais qu'il allait demander à Marquinhos de s'intégrer dans le milieu, chose qu'il ne demande pas à Ramos. Mais là, ce n'est pas le cas. Vu que ce n'est pas le cas, bah, autant mettre Marquinhos sur le côté droit et Ramos dans l'axe.
Oui, puisque bon, quand un arrière central coulisse derrière un couloir, cet arrière central qui coulisse est en position d'arrière latéral. Eh ben, je vois plus Marquinhos. Et ensuite, dans les habitudes, même si un garçon comme Ramos est suffisamment talentueux pour jouer à tous les postes, tu peux même le mettre arrière gauche aussi, tu peux même le mettre gardien de but. Mais quand tu regardes ses habitudes au Real, dans une organisation à deux, il était plutôt côté gauche, donc avec Varane côté droit. Donc si par exemple tu mets trois arrières centraux, tu passes pas de côté gauche à pratiquement un arrière droit quand tu coulisses derrière le piston. Et ça, ce sont des petits détails, mais que Christophe s'en apercevra. T'inquiète pas, si je m'en suis aperçu moi, ça s'en apercevra lui.
Et après, un dernier mot, on va parler de Vitinha. Vitinha, si vous le regardez, c'est Verratti bis, quoi. Il joue simple, le mec. Ça va faire une doublette. Alors, je sais pas où Renato Sanchez va jouer dans ce milieu de terrain. Mais Vitinha, c'est une pépite, hein, comme dirait mon pote. C'est vraiment une pépite. Il joue simple, tout en une passe.
Si je peux me permettre, tu m'entendras le dire souvent. Au lieu de se pencher sur où va jouer Sanchez, il va faire partie des 15 ou 16 joueurs avec qui les entraîneurs d'aujourd'hui, grâce, parce que j'aurais aimé, moi, avoir ça, 5 changements. Eh bien, Sanchez, il fera partie de ces 5 changements quand il sera pas titulaire. Tout simplement. Et quand tu as la chance d'avoir un Sanchez ou un Ikitike, mais qui ne sont pas titulaires au tout début de match et qui peuvent rentrer à tout moment, quand tu as un Paredes qui peut rentrer à tout moment, mais tu t'imagines l'équipe que tu as déjà dans le 11 de départ et les 5 changements que tu peux faire avec les 5 monstres que tu as sur le banc. Mais on va pas s'emmerder à dire où c'est qu'il va jouer Sanchez. Déjà Sanchez, si tu regardes ses stats, tu prends peur. Hey, il a même pas fait un match sur deux sur les deux ou trois dernières saisons. Donc, calmons loin que Sanchez de pas lui en donner trop à faire, parce que lui aussi, on peut quand même parler de fragilité.
David, merci. Il est parti. De Sébastien, merci. Pardon, c'était pas.
Merci. Ciao les gars. les gars.
À bientôt.
Salut Sébastien.
Oui, j'ai confondu avec David qui était l'auditeur précédent. Vous sentez d'ores et déjà, les gars, une sorte de Galtier, de style Galtier. Tu parlais tout à l'heure des distances entre Neymar et Messi.
Alors ça s'est pas répété en deuxième mi-temps.
Ouais.
La distance était beaucoup plus longue et comme par hasard, mais tu sais, il suffisait d'écouter les commentateurs, nos commentateurs, et c'était souvent Neymar, Messi, Messi, Neymar. C'est vrai que Sarabia et Bilal, qu'on avait eu à la mi-temps, l'avaient dit, et Sarabia ouais. est laissé pour compte, mais les deux étaient très proches et t'avais l'impression qu'il y avait une corde entre les deux. D'ailleurs, on fait des fois des exercices comme ça où t'attaches les deux, il faut qu'ils soient tout le temps à 20 mètres l'un de l'autre et puis qu'ils puissent jouer. Oui, ça c'est quelque chose qu'on attend. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant, je ne sais pas, les joueurs n'étaient peut-être pas, voilà, il y a des circonstances, en tout cas là c'est fait, et quand tu as deux joueurs comme ça, deux monstres comme ça, tu peux pas t'en priver. Ils s'en sont privés en deuxième mi-temps. Je trouve que le jeu du PSG a été moins poussé vers l'avant, moins rapide dans les touches de balle et tout ça, et surtout quand t'as un Neymar qui joue en une touche de balle, mais quand t'as Messi qui est juste à côté, qui passe et qui va et que Neymar il passe à Neymar, Messi redemande derrière, Neymar est capable de la mettre. Neymar c'est un mec qui est capable de jouer en une touche de balle, mais à condition aussi qu'il ait les opportunités, qu'il ait l'envie que, et quand t'as un mec comme Messi, quand t'as même Sarabia fait des appels et tout ça, il a pas été servi, ok, mais t'as envie de jouer en une touche de balle quand t'as des appels de balle. C'était pas tout le temps le cas. Là, les joueurs se vont vers l'avant. Les joueurs se on appelle ça le passe-va. Cette année, il y en a pour l'instant. J'espère que ça va durer comme ça. Mais pour l'instant, oui, ça c'est l'effet Galtier. J'en suis persuadé.
Mais pour le moment, en ce qui concerne l'effet Galtier, donc évidemment qu'il y est pour quelque chose. C'est tout à fait logique. Mais je trouve qu'il a l'intelligence aussi de s'adapter, lui, à des choses nouvelles, notamment un niveau de joueur qu'il n'a jamais connu, même s'il a eu la chance d'en avoir des bons. Mais là, quand tu vois ceux de Paris Saint-Germain, mais tu te pèses quand tu es entraîneur, et je suis pas étonné de l'entendre dire qu'il est très heureux et qu'il a même l'impression de rêver. Mais pour ce qui est de cette fameuse patte là, c'est l'expression à la mode. N'oublions pas quand même que Christophe découvre les trois arrières centraux. Je l'ai rarement vu jouer avec trois arrières centraux ces dernières saisons. Ensuite, il faut arriver à se partager le boulot pour être quand même solide. Dans les trois axiaux, que paraît-il, il y a eu des débats comme quoi c'est impossible de jouer trois axiaux, je dis les trois offensifs, hein, je voulais dire. Mais pour moi, les trois offensifs, s'ils se replacent un peu, tu as quand même sept joueurs plus un gardien de but, tu peux défendre s'il y en a au moins un des trois qui se replace. Et ça, j'ai l'impression que ça se passe rapidement. Le seul, je te dis, petit truc là, c'est la position de Ramos. Sinon, le reste, je trouve pratiquement parfait. Et ensuite, l'utilisation des trois monstres, quand Kylian va reprendre sa place, on va suivre ça avec beaucoup
d'attention. Ça va être encore une autre animation.
Avec beaucoup d'attention. Pour moi, par exemple, Détroit, celui, puisque Détroit, tu peux me raconter ce que tu veux, même si Mbappé est monstrueux et qu'il peut jouer à tous les postes, c'est pas un numéro 9. Donc, celui qui, pour moi, ressemblerait, aller le plus à un numéro 9, c'est Neymar. Un numéro 9 technique qui garde le ballon, et Mbappé, Messi, si on parle d'un V en retrait de Neymar en pointe, et après Neymar qui peut décrocher et Mbappé qui peut évidemment se faufiler dans la zone qui a été ouverte par Neymar. Et là, sincèrement, je m'imagine être un adversaire du Paris Saint-Germain. Écoute, j'ai mal à la tête rien que d'y penser.
Tiens, on a David qui est supporter de Clermont, qui était au stade. Salut David.
Bonsoir.
Bonsoir David.
David, tu avais un petit coup de gueule à passer.
Oui, tout à fait. Déjà, je suis super content de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous écoute. C'est une première pour moi.
Nous aussi,
bienvenue.
Et puis, honoré de parler à Monsieur Courbis et Monsieur Charbonnier avec toute leur carrière qui nous ont ravis.
Merci, Thierry.
C'est gentil.
Moi, j'avais un coup de gueule contre les supporters de Clermont, et plus précisément les footix présents dans le stade, qui ont, à un moment donné, sur le but de Messi, qui certes est somptueux, le dernier but, mais on s'est cru au Camp Nou, quoi. Tout le stade a repris Messi, Messi, comme si on était au Parc des Princes et que l'ensemble du stade était à l'image du parc, quoi. Donc,
ça t'a vexé, toi, le Clermontois ?
T'es méchant, David.
Non, je suis pas méchant, je suis réaliste, on est clermontois, on est fiers de l'être.
Oui, moi je comprends, David.
On supporte notre club, notre ville, notre région. C'est notre deuxième saison en Ligue 1, on essaye de pousser nos joueurs au maximum et je peux les comprendre que, alors là aussi je suis un petit peu déçu, mais je les comprends quelque part, qu'ils ne fassent pas le tour du stade à la fin quand on voit que les supporters supportent plus les adversaires.
Ouais, donc, alors après, quand t'en as pris 5, t'as pas trop envie de faire le tour du terrain, tu vois. Tu peux aller remercier. Il y a pas de souci. Moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, tu vois, j'ai revécu, et je sais plus quel auditeur nous disait, j'ai revécu un petit peu ce qu'avaient fait, les supporters de la Juve avec le but fantastique de Ronaldo, à la Juve, justement, où tout le monde s'est mis, c'était un but fantastique. Là, je pense que ça a été quelque chose, ça a été une réponse, alors non pas des Clermontois vis-à-vis des Parisiens, mais surtout par rapport à tout ce qu'a vécu Messi, là il a fait un grand match. Attention, toute proportion gardée, on l'attend encore une fois face à des adversaires individuellement beaucoup plus forts, et on va voir s'il fait les mêmes prestations. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais au moins c'est une belle réaction de Messi, et quant à l'un des meilleurs joueurs du monde, avec tous les ballons d'or qu'il a eu et tout ça, et puis avoir ce visage là et savoir rebondir, franchement, je suis pas choqué que saluent ça.
Moi, je suis totalement d'accord avec David. Ça avait déjà été le cas à Reims l'année dernière, à Reims, où en fait les gens du COP rémois, enfin les ultras rémois, ils disaient mais c'est pas possible. Nous, on a des gens ici, ils viennent juste pour voir le PSG. C'est insupportable et tout. On est à Reims. Voilà, c'est l'histoire du supporterisme qui est comme ça.
Je comprends les deux côtés.
T'es clairement toi, tu vas au stade, tu viens ton équipe, tu vois que tout le stade est pour le PSG. Tu dis, attends, on est où là ?
Vous pensez pas que là, en étant début août, Dans le stade, il y avait aussi une bonne partie de touristes.
Clermont, on n'a pas beaucoup de touristes.
Dans la région, allez, considérons dans un rayon de 100 km. Donc tu peux quand même, avoir vu.
David, vois un peu ta région quand même. Il y a des coins sympas.
Tu peux quand même avoir vu le calendrier et te dire tiens, je vais me faire un tour du côté de Clermont pour aller applaudir Neymar, Mbappé et Messi.
Tout à fait, je l'entends. Mais après, moi, c'était surtout quand Ramos est sorti, tout le stade l'a applaudi et j'ai pas trouvé ça choquant. Au contraire, j'ai trouvé ça très respectueux et très louable. Mais le fait qu'on se... Enfin, honnêtement, quand Messi a marqué son but, certes, qui est splendide, je me suis cru au Camp Nou. Enfin, quand je regardais les matchs à la télé de Barcelone et que Messi marquait que... Ouais, voilà,
C'est-à-dire que le souvenir que tu as, et en même temps, je rappelle là ce qui est pour moi... Si je suis joueur de Paris Saint-Germain, un très mauvais souvenir, c'est que la saison dernière, Lionel Messi s'est fait siffler au parc, pas seulement à la composition d'équipe, à chaque fois qu'il a touché le ballon. Ben ça me paraissait tout simplement.
Il s'est ovationné à Clermont.
Anormal.
Le football est logique, Roland. Le football est logique.
Ben oui, sincèrement, je me pince.
Oui, vas-y, pour M. Charbonnier, par rapport à Ronaldo à la Juve, j'espère que Messi finira clairement l'année prochaine.
Non, mais après, c'est vrai que dans l'histoire du foot, quand il y a eu une performance extraordinaire d'un joueur, ça s'est vu que même le public adverse se lève en disant bon, bah bravo, on connaît le football, donc on salue la performance.
Exactement, mais c'est vrai qu'on était venu en famille avec ma chérie et notre Toulou, et ouais, ça nous a un petit peu choqué le comportement des supporters clermontois et voilà.
Est-ce que ça te fait pas peur, toi, David, justement, avec cette fameuse tribune qui ne va plus exister bientôt. Donc, tu parlais de l'ambiance des Clermontois. Justement, ça va encore plomber l'ambiance. Savoir que l'année dernière, quand même, il y a beaucoup de matchs qui se sont gagnés à Clermont. S'il y a eu ce maintien, c'était aussi, il y a eu une communion et tout ça. Et ça va tout casser, non ? Enfin, moi, ça me fait peur.
Bah, nous aussi, en plus, on est dans cette tribune qui va disparaître. On est abonné dans cette tribune qui va disparaître. Et ouais, pour beaucoup, pour en avoir parlé avec pas mal de supporters qui sont également abonnés dans la tribune, on comprend pas qu'ils l'aient fait cette année, qu'ils aient pas attendu, voir ouais. si on se maintenait une deuxième saison.
Exactement.
Et peut-être, voilà, projeter, bah, cette construction un petit peu plus qui dure depuis quand même les années 90. Mmh. Bah, ça fait quand même presque 30 ans qu'on attend d'avoir un vrai stade à Clermont. Et puis voilà, maintenant ça commence à avoir des tensions en plus en interne avec un des dirigeants qui a été plus ou moins mis à la porte.
Oui, Jérôme Champagne.
Ouais. Exactement, ouais. On entend parler que le président veut vendre à un investisseur américain pour 80
millions. David, je vais te couper parce qu'il y a Christophe oui. Galtier qui arrive en conférence de presse. Merci David.
Bonne soirée, à bientôt.
Salut, allez, Galtier en direct.
Chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, quelle que soit la zone où se trouvait le porteur de balle. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de réactions à la perte. Et ça, c'est évidemment, on insiste sur ça. J'insiste avec mon staff, j'en parle beaucoup avec les joueurs. Et évidemment, à la fois sur le match de la semaine dernière face à Nantes, mais ce soir aussi, dans ce sens-là, c'est très bien. Mais ça ne reste qu'un match. Mais c'est bien.
Allez, on écoute encore une deux réponses. Galtier, Christophe Galtier en direct après la victoire du PSG 5-0. Ah, on n'entend pas les questions malheureusement. Donc on va se contenter des réponses.
On aura compris la question.
Voilà.
Le football est un jeu. Et par définition, quand on joue, on doit prendre du plaisir. Mais le plaisir ne peut être présent que si tout le monde joue à l'unisson et tout le monde fait les efforts pour les uns et pour les autres. Évidemment, il y a la manière dont on attaque et la qualité individuelle de ces grands joueurs qui fait que les enchaînements techniques sont très bons, même si, à mon sens, on a eu du déchet qu'on n'aurait pas dû avoir à un certain moment. Mais il y a après aussi cette volonté de travailler tous ensemble. Les matchs, il y a toujours des moments charnières dans un match où il faut être... Il faut montrer qu'on est là, présent, qu'on n'est pas dans le relâchement. Et quand vous avez, voilà, c'est dans ces deux parties du match ou du football, cette capacité à vouloir jouer ensemble sur un plan technique et jouer les uns pour les autres, mais aussi de faire l'effort et les compensations pour les uns et les autres, évidemment qu'il y a une notion de plaisir qui est là. Et c'est quelque chose que l'on doit encore travailler, mais qu'on doit toujours développer, toujours avoir en tête de n'avoir aucun relâchement, quel que soit le match, quel que soit le score, quel que soit l'endroit.
Ah, Christophe Galtier, encore une réponse. Là, on n'a pas appris grand-chose. Hein.
C'est ce qu'on avait dit jusqu'à
maintenant. Leçon générale de coaching.
C'est exactement
ce métier-là que vous avez
travaillé avec lui. Oui, nous avons échangé. J'ai échangé avec Léo pendant notre séjour au Japon, et j'ai échangé aussi avec mon secteur offensif pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Léo a un sens tactique très, très aiguisé, très clair. Il a une culture, il voit vite où il doit se mettre. La manière dont il défend, la manière dont il se positionne pour jouer avec les uns et les autres. Voilà, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs qu'il a autour de lui. Et à partir de ce moment-là, quand Léo sourit, évidemment que l'équipe sourit aussi.
Allez, encore une réponse, et après on laissera Christophe Galtier. Pas mal ce qu'il raconte sur Messi là. Ça donne l'impression, on en reparlera à Roland Lionel. En gros, il lui a dit voilà, comment tu veux jouer, où est-ce que tu veux jouer.
Exactement.
Et on va faire
comment
en fonction.
Ça s'organise devant toi.
Il y a toujours à trouver un geste. Surprendre l'adversaire, mais aussi peut-être ses coéquipiers, même Neymar a eu vraiment le sourire au moment du
tournoi.
Cette question.
Surpris de son geste, j'ai apprécié évidemment le but. Vous savez, Léo, ça fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a eu une saison un peu difficile la saison dernière. Il fallait s'acclimater, voilà, il y a un changement de vie radical. Mais toutes les saisons auparavant, c'était au minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu'il a ses repères à la fois au niveau de sa vie familiale, mais au niveau aussi de son club, de l'équipe, de ses partenaires, il n'y a aucune raison que Léo ne fasse pas une grande saison. Voilà. Et quand il sera évidemment associé à Kylian, il y aura encore beaucoup plus de pouvoir offensif. Et c'est sur cela aussi que je dois trouver le, non pas le meilleur équilibre, mais la meilleure animation possible pour que notre secteur offensif soit performant avec les uns et les autres tout au long de la durée des matchs.
Voilà pour Christophe Galtier.